Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité, chers auditeurs. Toujours avec Jérôme Pinault, Olivier Giraud, Christophe Cessieux, Fred Weiss. Dans quelques instants, on parle de Kylian Mbappé. Est-il encore aimé? Vous l'entendrez longuement dans cette émission. 10h30, la punchline des GG. Quel est l'événement de cette dernière journée du top 14? Le sauvetage in extremis du Stade français ou l'élimination de La Rochelle? Vous devrez trancher, mes GG. Puis 10h45, une nouvelle fois, les Night Sessions de Roland étaient réservées aux hommes cette année. Certains joueurs ont exprimé leur mécontentement. Est-ce cata pour l'image de Roland? Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on joue aussi dans cette émission.
RMC, tu gardes ou tu switches?
C'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter, grâce à Micromania Zing, la console Nintendo Switch 2. Vous pouvez la recevoir dans quelques jours. Elle est sortie jeudi dernier. Vous envoyez dès maintenant Switch au 732-16. Je vais demander au Limougeot de la bande. Comment on écrit Switch?
S-W-I-T-C-H.
Voilà, Switch au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire à partir de maintenant. Il est 10h10. Vous avez jusqu'à 10h15. Bonne chance à tous. Le grand gagnant sera en direct dans cette émission. On va débuter cette nouvelle heure par cette citation de François Sagan qui a dit un jour: aimer, c'est pas seulement aimer bien, c'est surtout comprendre.
RMC. Le bras de fer GG.
Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé.
C'est parti pour Kylian Mbappé qui va ouvrir son pied. Ah, oh, c'est arrêté,
non.
Incroyable. Et Kylian Mbappé qui met sa tête dans ses mains, il n'arrive pas à y croire.
Et moi j'ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé?
Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris.
Mbappé face à Vivian, oh, et la frappe.
Voilà. Elle est pas cadrée.
Si les apparences sont quelquefois contre moi.
Mbappé qui contrôle le ballon. Mbappé, c'est trop lent.
Je ne suis pas ce que l'on croit.
Moi je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis.
J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend.
Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin.
Paris sur le toit de l'Europe. Le football français remporte une deuxième Ligue des Champions.
Celui qui mérite le ballon d'or cette saison, oui, non, c'est Ousmane Dembélé.
Ça fait du bien d'écouter comme ça Daniel Balavoine dans l'émission. Hein. Ah oui,
arrête,
faut s'y connaître.
Manque de respect à Clo-Clo. T'as pas connu Clo-Clo, t'étais pas né toi?
Ah non, je connais Clo-Clo.
1974,
François,
ça. T'étais encore. Bah tu n'étais qu'une lueur dans le regard de ton père.
Oui, bah, c'est beau. Bravo. Ah bah oui, c'est 10 ans avant moi. Mon cher Christophe, Claude François évidemment. Alors loin des yeux, loin du cœur, l'icône du foot français. Connaît-il un désamour depuis son éclosion en 2017? Kylian Mbappé est devenu au fil des années et de ses performances le joueur emblématique du foot français, celui qui brille, celui qui est adulé, celui qui met des étoiles dans les yeux des enfants. Mais depuis sa fin de règne au PSG, sa prise de brassard en équipe de France, l'international français n'a plus la même aura autour de lui. À chaque fois désormais qu'il s'exprime en conférence de presse avec l'équipe de France, c'est pour se justifier, c'est pour se défendre. C'était encore le cas hier avant le match pour la 3e place de la Ligue des Nations qui aura lieu aujourd'hui à 15h face à l'Allemagne. Kylian Mbappé est-il encore aimé? Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Fred Weiss et Jérôme Pinault. Ah, dans le coin droit,
c'est là que c'est Limougeot.
Exactement, la team non.
Non, moi je suis pas le Limoges, les gars.
Alors calme-toi s'il te plaît, calme-toi.
Christophe Cessieux et Olivier Giraud, on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. Il n'y a pas débat pour vous, chers auditeurs.
Du petit bois,
79% non, 21% oui. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial en Allemagne auprès des Bleus, Edgar Grollo. Bonjour, Edgar.
Salut Jean-Christophe,
voilà,
salut tout le monde.
Fan numéro 1 de Kylian, c'est Edgar.
notre correspondant à Madrid. C'est
lui, il l'aime toujours.
Bah oui, Kylian Mbappé.
Bah, les gars, je suis journaliste, d'accord. Il n'y a pas de je l'aime ou je l'aime pas.
En tout cas, tu l'as beaucoup vu cette saison. Et il a parlé donc hier en conférence de presse. Et il n'a pas beaucoup parlé d'équipe de France, hein, Edgar.
Oui, parce que sa parole se fait rare et qu'il a donc été cuisiné sur tous les sujets brûlants du moment. Il y en a deux en particulier, à commencer par le Ballon d'Or. Accrochez-vous, je vous laisse profiter de l'intégralité de sa première réponse sur ce sujet. La question qui lui est posée, c'est: est-ce qu'il voterait pour Ousmane Dembélé?
Oui.
Voilà, ça c'est toute sa première réponse. Il soutient Dembélé. Kylian, est-ce que tu peux nous en dire plus quand même?
Il y a vraiment besoin d'expliquer? En ce moment, on parle de qui? De Lamine Yamal et d'Ousmane Dembélé? Moi, je vais pour Dembélé. Expliquer, ça veut dire que c'est pas clair. C'est très clair.
on parle de Yamal, on parle de Dembélé, mais est-ce qu'il y a d'autres candidats possibles?
Ça évolue très vite, hein. C'est quelque chose qui évolue très vite et les derniers vainqueurs l'ont montré. Il y a des joueurs de lesquels on parlait pas, au final ils ont gagné. Donc je sais quoi, c'est septembre, octobre. Si là il se passera beaucoup de choses. Aujourd'hui on parle d'eux, de Dembélé et de Lamine. Donc c'est pour ça que j'ai répondu à cette question.
Référence évidemment à la Coupe du Monde des clubs, hein, qui débutera le 14 juin. Certains à Madrid rêvent encore de voir Mbappé remporter le Ballon d'Or en cas de grande compétition, même si ça paraît très improbable. Le Ballon d'Or, c'était le premier sujet chaud. Le deuxième, c'était le titre du Paris Saint-Germain. Cette fois, on a senti un Kylian Mbappé plus tranquille au moment de parler de son ancien club. Écoutez.
Je pense qu'ils le méritent. Ils ont connu tellement d'années où ils ont galéré. J'ai fait partie de ça aussi, donc je sais très bien de quoi je parle. Et si on parle purement terrain, c'était la meilleure équipe d'Europe, donc ils ont mérité leur titre. Mon histoire avec le PSG, elle était terminée. Il n'y a aucune amertume, parce que je pense être arrivé au bout du chemin. Et quand tu arrives au bout du chemin, il n'y a aucune amertume, aucun regret. J'aurais tout essayé. Et au final, c'est juste le destin qui fait que voilà, ça devait se faire sans moi, tout simplement.
Avec tout ça, avec tous ces sujets d'actualité, il n'y a pas vraiment le temps de parler de football. Il nous a quand même expliqué qu'il commençait à s'habituer au poste de numéro 9. Il a assuré qu'il était dans l'œil du cyclone cette saison à Madrid. Il a aussi parlé du travail encore nécessaire pour l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Vous l'aurez compris, Kylian Mbappé a peu parlé des Bleus, mais Kylian Mbappé, a aussi peu été interrogé sur les Bleus dans cette conférence de presse.
Évidemment. C'est pour ça aussi qu'il ne vient plus, tu as raison, parce qu'il est interrogé sur autre chose et qu'il ne peut pas s'expliquer sur tout. Merci Edgar, tu restes avec nous pour ce débat. Kylian Mbappé est-il encore aimé? 79% pour son nom, pour vous les auditeurs, venez réagir évidemment au 32-16. Le camp du oui, Fred Weiss, Jérôme Pinault, vous commencez parce que vous êtes en retard, Fred Weiss.
Oui. Pourquoi on ne l'aimerait plus? Alors oui, bien sûr, il est ébranlé. Bien sûr qu'il est ébranlé, parce que Dembélé, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire qu'il n'est plus maître dans son pays, que quand on parle de Ballon d'Or français, on ne parle pas de lui. Évidemment qu'il est ébranlé. Quand on sait que le PSG gagne dès qu'il part, évidemment qu'il est ébranlé. Quand il vit en équipe de France, quand il a des affaires extra-sportives, évidemment que c'est difficile pour lui. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. À un moment, il faut se rappeler de tout ce qu'il a fait. Il ne faut pas d'un seul coup, d'un seul, se dire il s'est passé ça pendant une année et demie, deux ans, peu importe le temps. Tout ce qu'il a fait avant, faut s'en rappeler. Et les gens s'en rappellent. Alors oui, sa cote d'amour a baissé. Si tu me demandes si sa cote d'amour a baissé, je serais évidemment du même avis que mes confrères. Sauf que c'est pas ça la question, c'est de savoir si on l'aime encore. Et évidemment, on ne peut que l'aimer parce qu'on sait qu'il peut faire la différence. On sait que ça reste un très grand joueur. On sait que parfois, il est pas bon dans ses déclarations. Mais je trouve que sa déclaration sur le PSG, il est plutôt très bon. J'aime pas du tout sa déclaration sur Dembélé. Je la trouve beaucoup trop courte. Mais sur le PSG, je la trouve très bonne. On ne peut qu'aimer un très grand joueur. On a la chance d'avoir un très grand joueur. Oui, Dembélé est pour moi au-dessus sur cette année, mais il existe encore et il a raison d'exister.
Ok, la réponse d'Olivier Giraud qui ouvre grand les yeux.
Écoute, là, t'es en train de parler de sport et sur la partie sport, je suis d'accord avec toi et
bah après, c'est un sportif quand même. Donc
Kylian, il a cette particularité, c'est que c'est un joueur exceptionnel. Et ça, il y a personne qui peut remettre en question ça. Aujourd'hui, il est encore le meilleur buteur en Europe. Donc, quels que soient les titres qu'il n'a pas gagnés avec le Real, individuellement, c'est un mec hors norme. Et ça, personne ne peut le discuter. Par contre, il a autre chose et qui était prévisible, c'est que il est hyper présent sur tous les sujets. Que dès le début de sa carrière, il était la représentation de toute une jeunesse, de toute une manière de voir le sport, d'assurer son sport lui-même, de gérer ses contrats lui-même, de décider lui-même. Les clubs étaient très puissants. Et Kylian Mbappé, il a fait exploser ça. Il a fait exploser ça avec un des plus grands clubs, des clubs les plus puissants. Il a dit non, c'est moi qui décide. Et là, à partir de là, tu te mets à dos déjà les supporters de l'endroit où tu joues. Après, il a été hyper interventionniste dans les sponsors de la fédération, un truc qui n'est jamais arrivé, où il a fait plier la fédération. Donc, au fur et à mesure, cette hyper-présence...
Donc, il veuille gérer son image, qu'il veuille être omniprésent, qu'il en ait marre, les autres qui soient contre lui, qui décident pour lui. Moi, je trouve ça plutôt bien, moi.
Oui, tu trouves ça plutôt bien, mais là, on est en train de parler de comment les gens voient ça. Et cette partie de lui, cette partie de cette hyper-présence, de cette hyper-domination, même sur ses partenaires... C'est-à-dire que quand tu as déjà eu des grands joueurs comme ça qui imposaient beaucoup et qui imposaient même au-delà dans la sélection, qui pouvaient même imposer sur d'une certaine manière sur l'influence sur le coach. Et c'est cette partie-là qui a commencé à agacer tout le monde. Et il restait quelque chose qui faisait qu'il n'était pas contesté, c'est que pendant tout ce temps-là, il était toujours le meilleur sur le terrain. Et tout le monde attendait un truc, c'est qu'ils sont un peu moins bons sur le terrain. Et t'as vu, dès qu'il a
justement,
été un petit peu
Olivier,
moins bon, et il était tout seul à l'époque. Et il se passe autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques pépites qui sont en train de sortir, pépites françaises, qui sont en train de prendre la place.
Mais c'est pas parce que t'aimes des gens que t'aimes pas, tu t'aimes plus une personne, en fait, ça n'a rien à voir.
Aujourd'hui, la vision que les gens ont de lui, l'agacement, et ben, cette concurrence qu'il y a maintenant avec des joueurs qui paraissent, je dis bien, beaucoup plus sains, qui ne pensent qu'au foot, qui pensent qu'à l'équipe. Et eh ben en fait c'est à ça qu'il est en train de se confronter aujourd'hui.
Non mais Fred il réagit comme si c'était, et il est comme une star du sport français, donc je comprends un peu, il y a une espèce d'effet de solidarité avec Kylian Mbappé, parce que toi aussi tu as été un peu comme Mbappé à ta grande époque lorsque tu étais vice-champion olympique et tout ça. Non mais franchement, comment tu peux apprécier le comportement de Kylian Mbappé depuis des années? Moi, j'ai adoré le gamin, j'ai adoré le jeune footballeur formé à Monaco qui arrive plein de sève, plein d'envie, la tête bien faite, avec des belles déclarations sympas. T'as envie de vraiment d'être derrière ce joueur. Et puis, petit à petit, le star system, la tête qui enfle, qui devient démesurée.
Mais c'est le système qu'on a fait ça, Christophe.
C'est le système.
Il est victime de ça.
Oui, mais alors, je pensais qu'un mec intelligent comme il l'était, avec la tête bien faite, entouré comme il l'était, il puisse arriver à s'en sortir un peu. Or, il est exactement tout ce que aujourd'hui je n'aime pas dans le football, en fait, ce mec-là. Ses caprices, partira pas, cette guerre avec son club. Maintenant, il lui réclame des millions. Alors évidemment, de l'autre côté, on n'est pas blanc-bleu non plus. Ses déclarations, ses sorties nocturnes, c'est tout ce que j'exècre dans le star system du foot et tout ce qu'il représente aujourd'hui. Et c'est dommage parce que moi, ce gamin, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Sa façon de se mouvoir sur un terrain, l'influence qu'il avait sur ses camarades dans le jeu, dans l'équipe, ses déclats, franchement, il était top. Et je me disais, pourvu que les petits cochons ne le bouffent pas, mais ils l'ont bouffé et ils l'ont recraché, les petits cochons, ce que tu veux. C'est triste, mais c'est comme ça.
Vas-y, Jérôme.
Non, mais je me demande ce que l'on a en France à autant pouvoir aimer et ensuite aimer détester.
C'est-à-dire on aime brûler les idoles, Jérôme.
Parce qu'on est déçus.
Mais l'idole, mais le comportement, Christophe, c'est nous, c'est la presse, c'est les gens. On lui a trop demandé son avis sur tout. Et il a fini par être broyé par le système.
Il a donné deux interviews dans l'année, Jérôme, cette année.
Mais parce que justement, parce qu'il s'est fait broyer. Il y a un an, il était quasiment le personnage public à éliminer en France. Donc il se dit, maintenant je dis plus rien. Et il compte ses mots. Et comme il est pas bon sur le terrain, il sait très bien une chose, et moi c'est pour ça que je l'aime encore, c'est que ça reviendra lorsqu'il aura retrouvé sa superbe sur le terrain. Il la retrouvera. Et quand il va nous claquer des buts en Coupe du Monde pour battre l'Espagne, il redeviendra l'idole de tout un peuple. Parce que moi je fais partie de ceux, Olivier, je fais partie de ceux qui disent que oui, il y a des pépites en France, oui, il y a de très bons joueurs qui sont en train d'arriver, mais pour passer au-dessus du niveau qu'avait Kylian il y a deux ans maintenant,
Est-ce qu'il va le retrouver?
C'est un très très grand. Mais bien sûr, mais il est encore très jeune.
Il est encore très jeune.
Et si demain Kylian Ousmane Dembélé devient le nouveau Ballon d'Or, on va lui poser les mêmes questions. On va lui demander son avis sur tout. Et tu vas voir.
Qui va les enterrer, les deux.
Je suis pas d'accord.
Et tu verras. Et là, on parle aussi de l'extra sportif. Dembélé va prendre la lumière et va poser des problèmes à une certaine partie de la population française. C'est une évidence.
Alors, je suis pas
parce
d'accord.
Que notre pays est comme ça. Notre pays est comme
mais
ça.
C'est pas que notre pays. C'est non, pas que notre pays.
Alors, je suis pas d'accord. C'est un choix. En fait, Kylian Mbappé, il est tout simplement Kylian Mbappé. Ça veut dire qu'il faut pas chercher à ce qu'il soit autre chose. Ça veut dire que, au fur et à mesure qu'un joueur évolue, tu vois sa vraie personnalité. Cette personnalité, c'est celle-là. Il faut pas chercher autre chose. La personnalité de Dembélé, elle est totalement différente. Donc Dembélé va pas avoir les mêmes problématiques d'engagement politique, social de Kylian Mbappé. Par contre, il y a un truc avec Kylian Mbappé que je dis toujours, les gars, moi avec ce type de joueur, j'en ai croisé dans plein de sports. Il faut jamais insulter l'avenir. C'est-à-dire que là, tu le critiques là.
T'as raison,
Olivier. Oui, tu joues le ballon d'or et il te gagne.
Il marche. Mais il est quand même.
Je boufferais mon chapeau comme je l'ai bouffé avec le Zamalek. J'ai dénigré en début de saison et aujourd'hui, j'adore. Mais évidemment, tu évolues en fonction de ce que les gens te proposent en face.
Et puis, Chris, on ne parle pas et personne n'a mis en cause le talent de Kylian Mbappé. Mais on parle de la perception aujourd'hui. Un joueur qui est.
C'est parce qu'il a des engagements, qu'il soit bon ou mauvais, il a des engagements sociétals. Et à partir du moment où tu as des engagements
quand
il parle de politique, quand il parle d'autre chose, ses engagements sociétals.
Tu as raison, mais il y a une autre dimension. Et Jérôme, je te donne la main. Selon moi, qui trouble le message, c'est le fait, c'est le PSG. C'est évidemment d'avoir été au-dessus de tout le monde. C'est en équipe de France, même si Didier Deschamps lui a volontairement et on imagine
pourquoi a-t-il récupéré le brassard
c'est Didier Deschamps qui lui a donné, c'est pas lui qui l'a piqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il est un peu victime, mais il est aussi un peu coupable de tout ça. C'est ça que je voulais te dire. Et je pense que c'est cette dimension sportive qu'il a réussi à prendre. En gros, je suis un peu plus haut que tout le monde.
Tu l'as dit, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Il n'a pas volé, c'est pas de sa faute. Donc à un moment, le juge sur un truc qui n'est pas forcément trop fait.
Mais
je pense qu'un Didier Deschamps, il est quand même assez fort pour dire non, c'est pas comme ça, si j'ai pas envie.
Mais Jérôme Pinault, force est de constater que ça a brouillé un peu sa personnalité et le message.
Ça a brouillé sa personnalité. Est-ce qu'il a aussi brouillé sa personnalité? Moi, je peux pas m'empêcher de le penser, c'est qu'il a quitté le club qu'il fallait pas quitter, il a quitté Paris Saint-Germain.
Moi,
dans le timing, il fallait pas.
Mais pas de cette manière-là, pas après ce feuilleton qui a duré des années.
C'est donc l'une des explications du fait qu'il soit moins aimé.
Ce feuilleton, mais autrement, franchement, il fallait qu'il parte à un moment.
Comment tu expliques?
Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il est moins aimé.
Comment tu expliques un joueur aussi fort? Franchement, c'est une icône du foot français et voire même du sport français. Il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il a fait rayonner quand même le PSG pendant de nombreuses années, même s'il n'y a pas eu la Ligue des Champions. Comment tu expliques que ce joueur, une fois parti, tous les supporters du Parisien sont soulagés, tous les supporters du Paris Saint-Germain?
Mais parce que
c'est fou quand même.
Parce que son comportement a gonflé tout le monde pendant un an et demi. À chaque fois, je m'en vais, mais je vous fais languir pour finalement se casser.
La saison ne l'aide pas non plus. Parce qu'ils sont ratatinés en Ligue des Champions, le PSG. C'est pas exactement la même perception des supporters. Hein. Et à la fin de la saison, ils disent tous, reviens, Kylian, s'il te plaît.
Mais regarde la saison qu'a fait derrière le Paris Saint-Germain.
Personne ne le savait.
Mais quand tu compares les années Mbappé, notamment la dernière et celle-là, forcément, tu te dis, mais heureusement.
C'est hallucinant la mémoire courte. C'est-à-dire que on prend le résultat, Paris a gagné la Ligue des Champions et on a oublié que ce mec, il a mis Paris au centre du monde aussi.
Les gens ont oublié que
avant l'arrivée de Kylian Mbappé, ça jouait bien, il y avait Cavani, tout ça, et que c'est monté en puissance le PSG. En termes de notoriété et que à un moment on avait un joueur français.
Mais Neymar, ils ont fait autant que Mbappé.
En termes de notoriété, c'est ça que j'apprécie pas. Et je vais te dire un mot que tu as dit. Tu as dit il aurait dû le club de Caen. Mais je préfère que ce soit Kylian Mbappé qui achète le club de Caen que voir ce qui se passe à Bordeaux, que c'est
qui achète
le club, alors qu'il y a plein de mecs, il y a plein de stars du foot.
Mais il faut l'acheter.
Ouais, donc à un moment, on va arrêter de taper sur les Français.
Acheter un club, il faut avoir les compétences pour le faire. Et en gestion, il faut savoir le faire. Tu as vu le résultat? Donc tu es sportif, tu veux être bon sur le terrain. Mais parfois, il faut savoir garder sa place.
Moi, je préfère 10 fois être Mbappé, même si on peut le critiquer, que supporter et dire que Mbappé, c'est moins bien que Neymar et Messi. Je suis désolé.
Non, mais j'ai pas dit que c'était moins bien Neymar. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en termes de notoriété, il avait fait autant pour la notoriété du PSG que l'arrivée de Messi et Neymar. Rappelle-toi, c'était l'arrivée du pape quand Messi a posé le pied sur la planète France, sur la planète Paris.
Et qu'un Français lui dispute cette place d'être quelqu'un de plus connu. Et ben moi, je suis pour.
Ok, je reprends la main, les amis.
Donc finalement, t'es pro Mbappé, on l'a retourné.
Christophe nous appelle au 32-16. Salut Christophe.
Oui, bonjour à tous.
Mbappé est-il encore aimé?
Non.
Bon, après, tu peux développer.
Je vais développer. Vous avez parmi vous là un très grand capitaine, Olivier Giroud, d'accord? Je pense que moi, pour être capitaine, il faut être exemplaire et méritant. Mbappé, il a un truc qui s'appelle la melonite. C'est pas un melon qu'il a même à la tête, c'est une pastèque qu'il a. Donc, à cause de ça, ce gars-là n'est plus aimé. Parce qu'on doit être exemplaire pour faire ce qu'il fait. Voilà, moi, ce que j'en pense.
Moi, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi d'être si jeune, si haut, dans un sport si médiatisé, avec l'oseille qu'il y a autour, et qu'on lui pose la question sur tous les sujets, même si le mariage de la reine d'Angleterre doit avoir lieu ce jour-là, de ne pas prendre le melon. Je mets au défi quiconque de ne pas prendre le melon.
Ok les amis, on arrête ce débat, on reparlera évidemment de Kylian Mbappé, le match est à 15h. Edgar Grolot, merci d'avoir été avec nous, on te retrouve tout à l'heure sur RMC pour ce match, pour la 3ème place, fin de la consultation, 80% non finalement, est-il encore aimé, c'est non 80%.
Vous êtes tous les trois battus.
Oui les amis.
Dans quelques instants, m'a abandonné en route.
Les enseignements du top 14. Quel est l'événement? Est-ce que c'est la chute de La Rochelle ou c'est le sauvetage du Stade Français? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34 de retour dans les GG du sport avec Jérôme Pinault, Olivier Giraud, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes maintenant, on va parler de la polémique des Night Session. Aucune Night Session féminine. Est-ce que c'est cata pour l'image de Roland Garros? Mais tout de suite, le top 14. Le top 14 qui a donc rendu son verdict hier soir, en partie évidemment, c'est un premier verdict à l'issue de la saison régulière. Les principaux enseignements, je vous les donne chers auditeurs, Toulouse et Bordeaux se qualifient directement pour les demi-finales. Les barrages verront s'affronter Bayonne et Clermont d'un côté, Toulon, Castres de l'autre. La Rochelle, le double vainqueur de la Coupe d'Europe, termine à la place du con, pardonnez-moi l'expression mais c'est le cas, 7e. Le Stade Français se sauve miraculeusement, Perpignan en barrage et Vannes redescend en Pro D2. Nous allons nous intéresser à deux équipes, deux trajectoires. Deux saisons, il faut bien le dire, calamiteuses, le Stade Français et La Rochelle. Le soulagement et la honte du côté du Stade Français, la colère et la honte du côté des Rochelais, Léo Barret et Ronan O'Gara. Ce sont les punchlines des GG.
RMC, la punchline GG.
C'est un mélange de honte sur l'année, que ce soit individuellement ou voilà, avec le collectif, et de soulagement. Je la souhaite à personne dans la saison qu'on vient de passer. Et c'est vraiment un soulagement, pas d'euphorie. Mais oui, forcément, on est tous touchés. Je pense qu'on a très mal dormi cette semaine. On était très énervés, très tendus, ce qui est normal au vu de l'enjeu du match.
Beaucoup de choses doivent changer jusqu'à... qui a marché. Maintenant, c'est terminé, ça va pas marcher. C'est une fin de cycle. Il n'y a pas d'autre mot, on doit accepter la réalité. Mais si on continue d'éviter la vérité, ça va juste finir mal. Je suis triste pour le supporter, mais on a pris un grand claque et on va regarder la phase finale sur le cannabis. Pour être franc, c'est une année gâchée, une saison gâchée.
Et voilà, une saison gâchée pour les deux, même si évidemment le Stade Français a réussi à se sauver. Alors quel est l'événement du top 14 là, à l'issue de la saison régulière? Est-ce que c'est le Stade Français ou est-ce que c'est La Rochelle? Pour vous, les amis.
Demande à Fred, je pense qu'il...
Oui, je peux répondre tout de suite.
Fred Weiss.
La Rochelle.
La Rochelle pour toi, parfait. Olivier Giraud.
Le Stade Français.
Le Stade Français. Jérôme Pinault.
Le Stade Français.
Le Stade Français aussi.
Bah, moi, je vais dire La Rochelle. Je vais dire La Rochelle parce que le Stade Français qui se maintient, finalement, c'est un train qui arrive à l'heure.
Ok, alors bah vas-y, tu peux commencer.
Non, mais la Rochelle, oui, c'est quand même terrible de voir ce club qui a été doublement titré champion d'Europe il y a très peu de temps et qui a vécu une saison cataclysmique. Ce club qui était encensé justement par sa façon d'arriver à monter vers l'élite, ses pratiques, ses joueurs qui étaient bien en place, ce recrutement qui était parfait, cet esprit de corps. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense qu'aujourd'hui en Charente-Maritime, on doit être très triste de la situation, parce que La Rochelle, c'est vraiment le club de tout un département et quasiment de toute une région. Il n'y a pas beaucoup d'autres clubs de sport co dans la région, et franchement il faisait la fierté dans toutes les maisons en Charente-Maritime. Tu as le petit drapeau du Stade Rochelais, et ils étaient très fiers de voir cette équipe atteindre les sommets et notamment cette Coupe d'Europe. Eh bien, malheureusement, cette année, et on le sentait déjà un peu depuis l'année dernière, il y a eu cata, même s'il y a eu un regain de forme ces dernières semaines, mais là, bah, ils ont payé leur saison catastrophique. Et O'Gara a beau dire oui, c'est catastrophique, mais je pense qu'il est en partie responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui, comme les dirigeants qui n'ont pas fait non plus le bon recrutement dans ce club et qui ont laissé faire les choses. Ils sont peut-être un peu endormis sur leur laurier. Maintenant, il va falloir repartir. Une saison, heureusement, il y aura quand même la Champions Cup, parce qu'en rugby, quasiment tout le monde se qualifie qualifie pour la Champions Cup, mais il n'y aura pas de phase finale, et ça, ça va manquer forcément à La Rochelle et à tout le département.
Ça, ça va manquer au début de la saison, si on nous avait dit ça, le Stade français qui joue le maintien jusqu'à la dernière journée, et La Rochelle qui est en dehors du top 6, personne
oui,
n'y aurait cru.
Le top 14 est de plus en plus serré, c'est un championnat incroyable. Tout se joue à... Tu as vu la dernière journée, tout se joue à un essai, à un point bonus, marqué ou pas marqué, c'est terrible pour les nerfs.
Du côté de La Rochelle... On l'avait un peu senti venir déjà l'an dernier. Mmh, il n'y avait pas eu une saison qui rassurait. Et c'est un peu la continuité de la chute ou de la rétrogradation sportive de ce club qui va, c'est sûr, s'en remettre. Et là, Chris, où je te rejoins que partiellement, c'est les gens qui vont au stade à La Rochelle, qui supportent le Stade Rochelais, ils supportent leur club, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est des gens qui ont ces valeurs-là de supporter
ils ont un peu les boules. Quand même, ils ont bien les boules.
Ils ont les boules, bien sûr.
Et du comportement des dirigents et des.
Quand Ogara dit c'est la fin d'un cycle, oui, je pense qu'il doit
s'inclure dedans.
Moi, pour La Rochelle, je pense surtout aux supporters. Effectivement, tout le monde imaginait que cette équipe irait loin, c'est que ça serait des concurrents du Stade Toulousain, évidemment. Mais je pense aussi au fait que l'équipe de basket descende. C'est-à-dire que à La Rochelle, on a une équipe qui fait pas les playoffs cette année, qui est en galère, qui est dans le dur, alors qu'on attendait beaucoup de cette équipe. Et de l'autre côté, au niveau du basket, ils avaient réussi à atteindre l'élite. Ils retournent en Pro B. Je pense être supporter de La Rochelle, c'est difficile cette année, vraiment très très difficile.
Sachant que c'est un projet club commun.
C'est pour ça que j'évoque ça, parce que c'est vrai que des deux côtés, les résultats sont pas là.
Et souvent,
pour avoir échangé avec le manager général du club, Pierre Venner, qui vient de la même formation que nous, Fred, c'est un... Quelque part, c'était quasiment attendu. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de lueur d'espoir.
On se posait la question
semaines.
À chaque fois, on se demandait si justement
on y a cru,
pas.
On y a cru à un moment,
si,
quand même.
Si on n'avait pas de la place pour La Rochelle en top 14
exactement.
À côté du
Stade Toulousain. On y a recru, mais pour l'avoir croisé, Pierre, en début d'année, il savait qu'il allait s'attendre à une saison difficile et ils ont bien conscience au sein du club, qui est un club extrêmement bien structuré de base. Ils savaient qu'ils allaient arriver à la fin de quelque chose. Maintenant, c'est évidemment une énorme déception pour le Stade Rochelle. Ça, c'est sûr.
Olivier Giraud, pourquoi le Stade français pour toi ?
Le Stade français, tout simplement parce que on en discutait tout à l'heure avec Fred sur les droits du basket et du rugby, par exemple. Ce qui a bien fait le rugby, c'est à un moment d'être inventif, d'être différent pour bien chérir ses droits. Et je crois qu'on a oublié d'où ça vient. On a oublié à un moment, on aime le rugby de terroir, de certaines provinces qu'on aime énormément, voire de village. Mais par contre, le rugby est passé dans une autre dimension et on l'a tous vu. Pour ceux qui n'étaient pas des spécialistes de rugby, c'est le Stade français. C'est Mats Godzini a apporté quelque chose de totalement différent, une autre manière de voir le rugby, une autre manière de le montrer, d'emmener d'autres publics au rugby. Et je pense que le rugby a énormément gagné pendant ce temps-là parce qu'il y avait l'équipe de France, mais les clubs, on parlait de Toulouse, même si le Racing est un club historique, mais le Stade français a apporté autre chose grâce à Mats Godzini et les noms, on les connaît tous, hein, quand les Raptous sont arrivés avec Bernard Laporte et puis notre fameux Moscat qui est arrivé également pour devenir champion de France de ce club, puis les Marconnais, les Dominici et une histoire totalement différente. Donc oui, ça aurait été une grande perte parce qu'un club parisien qui descend, surtout dans la conjecture actuelle avec l'arrivée du foot dans
l'arrivée
même
du PFC, stade,
si Paris était descendu cette année, il ne serait peut-être jamais remonté. Donc, c'est très bien qu'il soit maintenu.
Ok, les amis. Voilà comment on peut débriefer ce top 14. Oui, vas-y rapidement.
Non, sur ce maintien du Stade français au dernier moment, il y a un gros événement pour moi qui suis dans l'Ouest, c'est la descente de Vannes. Et on espère que le club a anticiper ça et que ce soit pas la descente aux enfers pour le club de Vannes.
Oui, mais a priori, c'est
pas
ce qui
du
a été
tout
fait.
Structuré de la
c'est,
même façon.
C'est
mais
ce qu'il disait.
Parce
là.
Qu'il y a eu des gros investissements ces dernières années pour rester là-haut. Ils sont quasiment montés un peu trop tôt. Tu sais, quand tu montes un peu trop tôt, le plus dur c'est la redescente et amortir la chute. Et j'espère que c'est prévu.
Mais les dirigeants, Jérôme, ont anticipé, ont dit que de toute manière, ils s'attendaient à redescendre immédiatement et qu'ils vont continuer à partir dans la même optique et ils comptent bien remonter. remonter dans l'élite. Tu sais, avant de s'installer durablement dans l'élite, le Loup, le Racing avant lui, La Rochelle ont connu pas mal d'effets yo-yo avant de s'installer durablement dans le top 14.
Les barrages. La force de Vannes, c'est un peu celle de La Rochelle, c'est d'être un peu solo dans son coin et donc d'avoir le soutien d'un certain nombre de partenaires qui vibrent autour d'un club. À Vannes, c'est pareil, ils ont tous le fanion du stade du club de Vannes de rugby parce que c'est le seul grand club dans le coin et c'est ça la force aussi de ce club-là. On leur souhaite en tout cas de revenir très vite là-haut parce que je pense que le rugby français a aussi besoin d'un club comme Vannes dans sa photographie générale.
Les barrages, c'est la semaine prochaine, samedi prochain, on en reparlera évidemment, Bayonne, Clermont et Toulon-Castres pour aller défier soit Toulouse, soit Bordeaux en demi-finale du top 14. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler des Night Sessions. Essentiellement, exclusivement masculine. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Olivier Giraud, Jérôme Pinault. À partir de 11h, on parle évidemment de la grande finale de Roland-Garros, Alcaraz, Sinner. Est-ce le nouveau Nadal Federer, le nouveau choc qui va nous faire vibrer pendant 15 ans? On se posera la question. Mais tout de suite, le soir, la nuit.
Jour. Nuit.
J'en ai rencontré beaucoup de gens qui me disent « Oh, bon, les matchs féminins... »
Jour. Nuit.
Est-ce que vous avez regardé un match? Ils me disent non. Comment vous jugez un match de tennis féminin sans regarder finalement?
Jour. Nuit.
Donc j'espère que ça va changer.
Monsieur Lacou, je vous en prie, allons, ça devient casse-pied.
RMC. Le dossier des GG.
Ah, ça devient casse-pied, mais c'est toujours bon de l'entendre. C'était sublime, c'était intense, c'était long, et c'était du tennis féminin. Hier, la finale dame de Roland, on en a parlé il y a une heure, a offert un spectacle magnifique entre les deux meilleures joueuses du monde, Coco Gauff et Sabalenka.
Tu y vas un peu fort quand même. Spectacle magnifique.
Moi, je me suis régalé.
Ouais, mais parce qu'il y a eu des renversements de situation et tout. Mais en termes tennistiques, c'était quand même pas un summum, quoi.
Non, mais il y avait beaucoup d'émotions.
Le nombre
c'est
de breaks, le nombre de fautes directes. Non,
mais le break fait partie du jeu. Les fautes directes. Ah ben,
le nombre de breaks, je sais pas, Eric a dû les comptabiliser, mais c'est un truc de dingue.
Sabalenka, 70 fautes directes.
Ouais.
Contre 30 pour Coco Gauff. En tout cas, c'était un bras de fer à coups de parpaing, remporté finalement par l'américaine. Et pourtant, le tennis féminin a encore été boudé le soir cette année. Après 5 éditions Porte d'Auteuil, seulement 4 matchs féminins ont été programmés en session de nuit à Roland-Garros. Pour la deuxième année de suite, les femmes ont été privées de cette grande messe du soir sur le cours Philippe Châtrier. Et des joueuses n'hésitent plus à exprimer leur mécontentement à l'image de Ons Jabeur ou encore de la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka. On va retrouver notre envoyé spécial à Roland, Anthony Reich. Salut Anthony.
Salut les grandes gueules.
Alors comment les organisateurs arrivent à se sortir de cette polémique annuelle?
Eh bien le premier motif, c'est tout simplement la durée probable des rencontres féminines avec un seul match au programme. Cela comporte trop de risques de les planifier pour Amélie Mauresmo, directrice du tournoi.
Notre système d'avoir un match unique le soir n'a pas changé. Le temps de jeu est évidemment pris en compte lorsqu'on a un seul match. On ne peut évidemment pas prévoir ni pour un match féminin ni pour un match masculin le temps que ça va durer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, notamment par rapport aux 15 000 personnes qui sont dans le stade pour les matchs du soir. Évidemment, de par le fait que les matchs d'hommes se jouent au meilleur des 5 manches, il y a 3 sets minimum qui seront joués. C'est compliqué pour nous de faire autrement. Ouais.
Alors pour la deuxième année consécutive, il n'y a donc pas eu de match féminin en session de soirée à Roland. La question est d'ailleurs arrivée assez tôt dans les conférences de presse de la part de nos confrères anglo-saxons qui ne semblent pas comprendre la spécificité de la Porte d'Auteuil. La Tunisienne Ons Jabeur est toujours en colère contre l'organisation.
Ça reste triste qu'on soit toujours dans la même situation. Les personnes qui prennent ces décisions, qui qu'elles soient, je ne sais pas si elles ont des filles, et j'espère qu'elles ne traiteraient pas leurs filles comme ça. C'est un peu ironique. On ne diffuse pas de sport féminin, de tennis féminin, et ensuite on se pose la question de savoir pourquoi on regarde plus le sport masculin. Bien sûr qu'on regarde plus le sport masculin, puisque c'est ce qui est le plus diffusé. Ça va donc de pair. C'est un peu une honte pour la fédération, une honte pour Prime, la chaîne de télévision.
Le quart de finale André-Eva Boisson aurait été évoqué pour la toute dernière Night Session cette année, mais il n'y a pas eu finalement d'accord depuis leur instauration en 2021. Seuls 4 matchs, tu le disais, JC féminin ont été joués en soirée. La raison est évidente pour l'entraîneur Patrick Moratoglou au micro de France Télévisions.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on est dans une période dans le tennis féminin où il n'y a pas de très grandes stars. À l'époque où il y avait Sharapova, Serena et d'autres, il y avait des très 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 grandes stars, des gens qui avaient une popularité monumentale, qui étaient connus dans le monde entier. Je pense qu'une Swiatek, c'est pas son cas. C'est une joueuse exceptionnelle. Elle a gagné 4 fois ici. C'est une très très grande joueuse. Il n'y a pas de doute sur la question. Mais être une star, c'est pas juste être une très grande joueuse de tennis.
Alors il faut le dire aussi, de nombreux matchs de top joueuses cette année du tableau féminin se sont joués devant des tribunes très clairsemées. Peut-être que la saison prochaine, si elle confirme, la nouvelle locomotive Loïs Boisson fera le bonheur des Night Sessions.
Merci beaucoup Anthony Reche pour ces précisions, et je rappelle tout de même qu'il y avait jusqu'à 5 millions de téléspectateurs hier sur France Télévisions pour cette finale féminine, donc c'est un record absolu. Donc c'est dire aussi si parfois le tennis féminin peut rassembler du monde devant la télé, même s'il n'y a pas de Françaises. Est-ce que c'est une cata pour l'image de Roland là, tout ce qui est en train de se passer autour des Night Sessions, Fred Weiss?
Non, c'est pas une cata, je vois pas pourquoi ce serait une cata. On est en train de découvrir que le sport c'est du business, vraiment. Moi, je suis très surpris. En fait, la problématique, et Amélie Mauresmo l'explique bien, et on peut pas lui dire qu'elle est contre le tennis féminin, ou alors ce serait une hérésie absolue. Elle, son objectif, c'est de promouvoir les soirées au maximum. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, effectivement, les garçons jouent 3-7, les filles jouent 2-7. En gros, en schématisant, évidemment, à minima. Ben, forcément, les gens, quand ils vont venir le soir, ils vont vouloir.
Ils le savaient pas avant ça.
Ah, mais bien sûr qu'elle le savait. Évidemment qu'elle le savait. Sauf que, évidemment, que c'est beaucoup plus logique quand tu vas payer une seule, pour voir un seul match, que tu payes ça. Ensuite, il y a une autre problématique.
À ce moment-là, tu mets en deux. Cartes sur table, tu dis, voilà, déjà, tu en mets deux. Autrement,
deux, c'est pas possible. Alors, ça voudrait dire que tu fais deux en journée. C'est pas possible.
Non, mais c'est ce qui se passe aux États-Unis.
Oui, mais c'est pas ce qu'on fait nous. Ça serait trop peu pour changer tout le modèle.
Il faudrait changer tout le modèle. Ou alors tu mets deux matchs. Ou alors tu dis les femmes, vous n'êtes pas invitées le soir, mais tu le dis, voilà, tu arrêtes de faire le faux cul et tu dis les choses. Ou alors tu assumes le truc. Et je suis désolé, mais de pas voir une Loïs Boisson la voir jouer à 11h.
Tu sais pourquoi elle a pas joué
midi,
soir. Tu sais pourquoi elle a pas joué soir.
Le soir,
c'est pas complètement vrai.
Prime a demandé
effectivement
son 8e de finale. Mauresmo a dit non parce que ça va durer trop peu de temps.
Non, c'est pas que pour ça.
Et que les spectateurs qui ont acheté leur billet vont râler parce que elle est prise entre deux.
Il y a
pas un truc qui vous gêne là, c'est-à-dire que t'es en train de dire que Amélie Mauresmo est prise entre deux feux. C'est pas n'importe qui.
Oui, mais aujourd'hui elle est la garante,
mais elle était surtout une des meilleures joueuses qui a joué Roland Garros.
Meilleure joueuse qui a fait beaucoup pour la promotion du tennis féminin
quand elle jouait
à son époque. Quand elle était joueuse, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas.
Olivier, on a un problème. On a deux diffuseurs en France, et ça c'est une vraie problématique parce que tu. En fait, l'avantage est toujours au clair. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on propose toujours le clair. Si quand c'est
le choix numéro un, c'est Prime.
C'est Prime qui l'a.
D'accord, mais
c'est la meilleure affiche.
Le clair
c'est dans le
et
deal.
La française. Roland Garros a le droit de mettre un veto dessus pour l'avoir en clair.
La première question qu'on devrait se poser, c'est qui est responsable de la programmation des Night Sessions? Une fois que tu as répondu à ça, là, on peut commencer à discuter.
C'est Prime demande.
Non,
Roland Garros décide.
Pas du tout. C'est la directrice du tournoi qui décide.
Oui, mais
par contre, tu as un truc intéressant, c'est qu'on est dans l'entertainment et qu'on est capable de plier face à une demande d'un opérateur. Qui est Prime, qui est un opérateur américain, et ça prouve bien la mentalité entre ce qu'on dit sur l'égalité et tout le monde le prône avec une directrice ancienne joueuse du tournoi.
C'est un aveu.
Et ce qu'on fait. Donc moi je suis désolé, mais c'est un peu plus grave que ce qu'on est en train de dire là. Ça veut dire que c'est un désaveu complet et qu'à un moment ça montre bien l'intérêt que l'organisateur porte au tennis féminin au-delà des paroles. Se dire que peu importe que le match dure tant, parce que en fait, on le sait très bien, et on le voit avec le rugby et les sports dont on parle, plus tu es diffusé, plus tu es respecté et plus tu prends de l'importance. Ce que vient de faire l'organisation de Roland Garros, c'est remettre les femmes à la place à laquelle elles ne veulent pas l'être.
Et Olivier, il y a quelque chose en plus de ce que je suis complètement d'accord avec toi, il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier et ne pas négliger, c'est être diffusé, mais surtout être vu. Et là où je vais à l'encontre de certaines joueuses, moi, c'est que pour ce qui est des audiences,
Oui, il vaut mieux avoir un quart, un demi en clair avec la finale hier à 5 millions.
À 16 heures.
Plutôt que d'être en prime, qu'il y ait moitié moins de gens qui regardaient. Moi, je trouve que pour monter, faire monter la mayonnaise, faire prendre. Moi, j'ai adoré voir le tournoi féminin. J'ai gardé que des matchs féminins quasiment. J'ai quasiment pas. Pourquoi ? Parce que ça m'a emmené. J'ai aimé ce jeu. Et pourquoi ? Parce que c'est court. Je suis pas un grand fan de tennis, donc j'aime ce format-là. Ce format-là et ces matchs-là en pleine journée, en clair. C'est comme ça qu'on va en faire des stars. Mouratoglou, il me fait rire. Il dit il y a pas des stars. Oui, mais il faut les voir. Ça, je suis d'accord avec la joueuse. Et en les voyant en clair dans la journée, je pense que c'est faire du bien au tennis féminin. Et après, il y a aussi ces matchs qui se succèdent et qui vont le soir chercher un autre public. Et je pense que pour trouver son public dans un premier temps et qu'on continue à regarder ce tennis féminin avec un œil de passionné mais aussi intéressé pour voir comment les joueuses deviennent des stars, je pense que c'est quand même très important de les garder en clair sur France Télé. C'est beaucoup mieux pour elles. Je pense que c'est beaucoup mieux pour elles. Moi, sincèrement,
pour le public français, il a pu voir Loïs Boisson.
Exactement,
en
exactement.
Clair,
moi, j'aurais pas été voir Loïs Boisson sur Prime. J'ai pas cette chaîne. Et le soir, je vais pas regarder. Tu vois, c'est la différence.
Moi, je suis pas du tout convaincu de toute façon par les Night Sessions. Je vous le dis, ça fait pas partie de la tradition de Roland Garros. Déjà, on a mis un toit, c'est magnifique. Heureusement, on a pu jouer les matchs. Mais les matchs le soir,
c'est en plein air,
j'ai été en regarder un seul. C'est le Djoko Zverev. Autrement, je suis passé complètement à côté du truc. Pour moi, le tennis Roland Garros, c'est l'après-midi. Voilà. Bon, je suis peut-être un peu vieux jeu, un peu
vieille tradition. Vous inquiétez pas. Les Night Sessions, on en reparlera l'année prochaine dans les grandes gueules du sport.
Ah, bah sûrement.
10h57. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de cette grande finale. Est-ce que c'est le nouveau Federer-Nadal? Ce que nous allons voir cet après-midi en clair à partir de 15h. Évidemment, la radio sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.